Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du lundi 4 novembre 2019. Avec vous, de Washington, Claire Morin-Gibourg
et Anne Albertson.
Au sommaire de cette édition.
Week-end macabre au Mali, au moins 53 soldats et un civil sont morts dans deux attaques djihadistes séparées.
Nouvelle attaque au Burkina également. Quatre personnes, dont le député maire de Djibo, ont été tuées dimanche lors d'une embuscade.
Au Bénin, neuf marins ont été enlevés en rade du port de Cotonou.
Incendie en Californie, le président Donald Trump menace de priver cet État des aides fédérales.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Ce matin, dans l'actualité africaine, c'est l'émotion au Mali après un week-end macabre pour l'armée. Au moins 53 soldats et un civil ont été tués lors d'une attaque contre un poste de l'armée dans le nord-est du pays. Samedi, ce sont des engins explosifs qui ont fait de nouvelles victimes. Le point avec Abdourahmane Dia.
Deux soldats maliens ont été tués, 6 blessés, samedi, lors d'une patrouille dans le centre du Mali, après le passage de leur véhicule sur un engin explosif. Selon l'armée, c'est un véhicule des forces armées maliennes qui a sauté sur un engin explosif improvisé dans la zone de Bandiagara, dans le centre du pays. Les blessés ont été évacués dans un hôpital de Sévaré, à 15 km de Mopti, la principale ville du centre du Mali. Par ailleurs, un militaire français avait été tué samedi matin lors d'une opération dans la région de Menaka, dans le nord-est, près du Niger, également victime d'un engin explosif. Ces deux attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique. L'attaque de vendredi visant le camp militaire de l'armée malienne à Indeliman est survenue un mois après des attaques djihadistes meurtrières le 30 septembre à Boulkessi et le 1er octobre à Mondoro, dans le sud-est du pays, près du Burkina Faso. 40 soldats avaient alors été tués dans ces deux attaques, selon un bilan d'un responsable du ministère de la Défense. Mais plusieurs sources estiment que ce bilan officiel de 40 morts avait été sous-évalué.
Une nouvelle attaque a également eu lieu au Burkina Faso. Oumarou Diko, le député maire de Djibo, une ville à 200 km de la capitale, a été tué, ainsi que 3 autres personnes dimanche. Une attaque attribuée à des terroristes, selon les autorités. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
C'est la plus haute autorité administrative tuée à ses jours dans une attaque terroriste au Burkina Faso. Avant lui, le préfet de Oursi, toujours dans le nord, avait été abattu devant son domicile en mai 2018. Ces dernières années, des dizaines de communes de la région du Sahel se sont vidées de leurs habitants. La plupart des maires du nord ont fui la région. Djibo, la grande ville, tenait encore grâce notamment à la détermination de son député maire. Oumarou Diko était resté attaché à sa commune. Même s'il vivait depuis un certain temps à Ouagadougou, il se rendait régulièrement. C'est là que le mois dernier, VOA Afrique l'avait rencontré dans ses bureaux. Diko risquait sa vie pour sa commune, qu'il disait abandonnée par l'État. Il appelait au secours pour la sécurité de Djibo, mais aussi pour l'aide aux quelques 50 000 déplacés internes que sa commune accueille. Dans tout le Burkina, Diko était seul à laisser éclater sa colère lorsque des policiers ont déserté sa ville il y a quelques semaines. Hier matin, le député maire est parti de Djibo pour revenir à Ouagadougou. Ses collègues députés à l'Assemblée nationale ne le reverront plus. Avec 3 autres personnes, Diko est tombé dans une embuscade. Ils ont été abattus à bout portant par des hommes armés non identifiés. Selon les témoins, les assaillants qui ont laissé partir les passagers d'un bus visaient principalement le maire. Ce dimanche, Diko est mort, laissant derrière lui une commune encerclée par des groupes djihadistes. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Bénin, 9 marins d'un cargo norvégien ont été enlevés hier en rade du samedi en rade du port de Cotonou, la capitale économique, par des pirates présumés. Ce n'est qu'hier soir que les autorités portuaires et l'armateur l'ont annoncé. Le cargo, le Bonita, attendait de pouvoir décharger sa cargaison de gypse lorsqu'il a été attaqué. Tous les marins enlevés sont de nationalité philippine.
La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a réaffirmé hier dimanche à Bissau son plein soutien au Premier ministre de Guinée-Bissau, Aristide Gomes, en conflit avec le président José Mario Vaz, qui l'a limogé. Une crise politique qui intervient à 3 semaines de l'élection présidentielle du 24 novembre. Nous faisons le point avec Jean-Roger Bion.
La délégation de la CEDEAO conduite par le ministre des Affaires étrangères du Niger, Kalla Ankoraoo, a dénoncé le caractère illégal du décret démettant le gouvernement d'Aristide dans une déclaration lue par le président de la commission de l'organisation, Jean-Claude Brou. Tous ceux qui engageront des actions contraires à la tenue effective des élections s'exposeront à des sanctions individuelles, a indiqué M. Brou. De son côté, Aristide Gomesh, déchu de son poste, mais qui refuse de le céder, a indiqué à l'issue d'une rencontre avec la délégation de la CEDEAO, « Mon gouvernement est le seul légitime reconnu par la communauté internationale. Je poursuis mon travail qui est d'organiser les élections à la date prévue. Si le président Vaj met le feu à la maison, il risque de rester sans toit. » La délégation s'est aussi entretenue avec le président Vaj, des diplomates africains, européens et onusiens à Bissau, des représentants de partis représentés à l'Assemblée et de la commission électorale. La CEDEAO ne reconnaît pas le nouveau premier ministre Faustino Ndibali. Le Conseil de sécurité de l'ONU a aussi appelé vendredi au respect de la date de la présidentielle en Guinée-Bissau, rejetant le changement de gouvernement décidé par son président.
En République démocratique du Congo, un animateur de radio locale, Papi Mumbere Mahamba, impliqué dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, a été assassiné à Luemba, dans le nord-est du pays, à la veille de l'introduction par les autorités d'un nouveau vaccin. Depuis septembre, plusieurs radios du territoire de Mambasa ont décidé d'interrompre la diffusion des émissions sur la lutte contre la maladie à virus Ebola en raison de l'hostilité d'une frange importante de la population, selon l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, basée en RDC.
En Algérie, 4 manifestants ont été arrêtés dans la capitale, Alger, au surlendemain d'une manifestation anti-gouvernementale, au cours de laquelle ils ont brandi un drapeau berbère. Ces manifestants sont poursuivis pour atteinte à l'unité nationale.
Au Soudan, la principale organisation du mouvement de contestation qui a mené à la chute du président Omar el-Béchir a indiqué hier ne pas avoir d'objection à ce qu'il soit remis à la Cour pénale internationale. Omar el-Béchir, destitué par l'armée le 11 avril, fait l'objet de 2 mandats d'arrêt émis par la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide commis dans le cadre des violences au Darfour.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité dans le reste du monde, le président Donald Trump a une nouvelle fois menacé de priver la Californie des aides fédérales destinées à la lutte contre les incendies. Une déclaration faite sur Twitter après des critiques formulées par le gouverneur démocrate de l'État contre sa politique environnementale. Abdourahman Dia.
Reprenant des attaques déjà formulées l'an dernier lorsque des feux violents avaient dévasté le nord-est de l'État, faisant 86 morts, Donald Trump a reproché au gouverneur Gavin Newsom d'avoir fait un travail horrible en termes de gestion des forêts. Je lui ai dit dès notre première rencontre qu'il devait nettoyer ses forêts, peu importe ce que les écologistes exigent de lui, a-t-il tweeté dimanche. Tous les ans, c'est pareil, il vient demander de l'argent au gouvernement fédéral, c'est fini, qu'il se prenne en main, a-t-il ajouté, reprenant une menace déjà formulée l'an dernier, mais jamais appliquée. La veille, le gouverneur Newsom avait reproché au président, dans un entretien au New York Times, de mener un assaut en règle contre l'antidote aux incendies en démantelant les politiques de lutte contre le réchauffement climatique mis en place dans son État. Ces 2 dernières semaines, plusieurs incendies ont ravagé près de 40 000 hectares en Californie, où les pompiers luttent encore contre le Maria Fire, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Los Angeles.
En Bolivie, le candidat d'opposition à la présidentielle, Carlos Mesa, a exigé hier la tenue d'un nouveau scrutin pour sortir le pays de la crise déclenchée par la réélection controversée fin octobre du socialiste Evo Morales. Selon les résultats définitifs de la présidentielle du 20 octobre, publiés samedi, M. Mesa arrive en deuxième position avec 36,51% des voix contre 47,08% pour Evo Morales, qui a ainsi été réélu dès le premier tour. L'opposition dénonce des fraudes.
De nouvelles manifestations ont eu lieu hier dimanche au Liban où plusieurs milliers de personnes ont envahi les rues de Beyrouth et d'autres grandes villes quelques heures après un vaste rassemblement des partisans du président Michel Aoun.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce matin avec Nathalie Barge.
La livraison de voitures de luxe à la famille royale d'Iswatini a provoqué un tollé dans ce petit royaume. Les véhicules ont été acquis via un fonds alimenté par la vente de biens appartenant à la famille. La Confédération syndicale Tukoswa a fait part de sa plus grande stupéfaction. Le gouvernement a refusé d'ajuster les salaires des fonctionnaires ces trois dernières années, se disant soumis à de pressantes restrictions financières, s'est-elle indignée. Le chanteur Salif Traoré, leader de Magic System, a été nommé au Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Je suis heureux que l'association du groupe soit reconnue au plus haut niveau. Le CESEC sera une tribune pour continuer à mener des actions pour le bien-être de la population, a déclaré l'artiste de 40 ans à Salfo. Le gouvernement nigérian souhaite mettre en place des mesures plus strictes pour réguler les médias et lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Un nouveau code des médias établi en juillet dernier et appuyé par le président Muhammadu Buhari prévoit une amende de 5 millions de naira contre 500 000 actuellement. Pour indécence, incitation à la violence ou discours haineux, le ministre de la Communication, Lai Mohamed, s'est engagé à renforcer la Commission nationale de diffusion.
Et maintenant, notre page sport avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée. Football avec le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération et on connaît 15 des 16 qualifiés pour la phase de groupe.
Oui, et les favoris ont tenu leur rang à l'image de la Renaissance du Berkane, vainqueur de Fosa Junior de Madagascar 5-0 après avoir perdu 2-0 à l'aller. Une performance reconnue par Alain Traoré.
On a fait un mauvais match chez eux là-bas au Madagascar avec un mauvais terrain. On avait à cœur de faire un bon match ici. Je pense que c'est chose faite. En première mi-temps, on a voulu mettre beaucoup de pression. On les a pris à la gorge. On a marqué tout de suite 4 buts et ça nous a plus libéré en deuxième mi-temps. On a pu gérer le match. Voilà, on finit 5-0. C'est le score qu'on voulait faire. On a réussi. C'est vraiment très très bien.
À l'instant, Alain Traoré, l'attaquant burkinabé au micro d'Amin Birouk. Pour la suite, le Oroya de Conakry, déjà vainqueur 4-2 à domicile, à l'aller, l'a confirmé en s'imposant 1-0 face au Kenya de Bandari. Et puis, ça passe aussi pour le Daring Club Motéba Pembe face à un autre adversaire kenyan, Gomaya. Qualification également des Égyptiens d'El Masri et de Pyramide, des Libyens d'El Nasr et des Nigériens d'Enimba.
Djoliba de Bamako jouera aussi la phase de groupe.
Une première pour le club malien, double vainqueur des Tchadiens de l'export. Une grande première aussi pour les Ivoiriens de FC San Pedro qui ont sorti les Ghanéens d'Asante Kotoko, tout comme les Mauritaniens de FC Nouadhibou ainsi que les Sud-Africains de Bilvès et les Zambiens de Zanaco. En revanche, les Togolais de l'ASK ont été éliminés par les Nigériens de Nougou Rangers.
Élisée, le dernier qualifié sera connu demain mardi.
Effectivement, et ce sera entre les Béninois de Zaïe et les Sénégalais de Génération Foot. Le club de Cotonou a réalisé l'exploit en allant s'imposer 1-0 à l'aller au Sénégal, ce qui n'emballe pas l'entraîneur Bior Richard qu'on écoute.
Nous préparons ce match avec beaucoup de sérénité. Nous essayons de ne pas nous affoler parce qu'il s'agit d'un match très capital pour nous. Et on a en face un adversaire difficile à jouer parce qu'il s'agit de l'équipe championne du Sénégal. Il va falloir que nous jouions en comptant sur nos valeurs, c'est-à-dire en comptant sur nos forces et mettre en place une stratégie qui nous permettra de contenir la velléité de l'adversaire.
Cyclisme, Manuel Antonio Dario remporte le Tour du Faso 2019.
Oui, c'est à l'issue de la 10e et dernière étape courue hier entre Komissiri et Ouagadougou, remportée par le Burkinabé Bachirou Nikema. À 27 ans, Manuel Antonio Dario est le premier Angolais à remporter le Tour du Faso. Il succède ainsi au Burkinabé Mathias Sogo.
Rugby à présent, l'Afrique du Sud éteint l'Angleterre et remporte son 3e titre mondial au Japon.
En se classant le 15 de la Rose 32-12 à Yokohama en finale. Les Springboks, avec un essai du Toulousain Cheslin Kolbe, deviennent championnes du monde pour la troisième fois de leur histoire. Du basketball pour finir, la NBA, les résultats de la nuit.
Les Heats de Miami ont très largement battu les Rockets de Houston 129-100. Les Pacers d'Indiana sont venus à bout des Bulls de Chicago 108-95. Les Kings de Sacramento ont dominé les Knicks de New York 100 113 à 92. Les Mavericks de Dallas se sont imposés face aux Cavaliers de Cleveland, 131 à 111. Victoire des Los Angeles Lakers face aux San Antonio Spurs, 108 à 96. Enfin, les LA Clippers ont battu les Utah Jazz, 105 à 94.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, de nouveau avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. Au Cameroun, une trentaine de militants du MRC, un parti de l'opposition, ont été interpellés ce week-end à Yaoundé et d'autres interdits d'accès dans la région natale du président Paul Biya pour y tenir un meeting. Le président du MRC, Maurice Kamto, avait programmé des séries de rencontres avec ses militants après sa sortie de prison. Mais les autorités n'ont délivré jusqu'ici aucune autorisation de manifestation publique aux partisans du candidat malheureux à la dernière présidentielle. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Tappe.
Malgré l'enthousiasme des jeunes militants du MRC, Maurice Kamto n'a pu tenir son meeting à Yaoundé. Son cortège a été stoppé net à 100 mètres de l'esplanade du stade Omnisports de Yaoundé par la police et la gendarmerie déployée sur le site samedi matin. Son parti n'a pas reçu l'autorisation du ministère des Sports et de la direction du stade Omnisports de Yaoundé pour occuper l'espace sollicité, a précisé le commissaire de police dépêché sur les lieux. Sostène Médard-Lipot, secrétaire national à la communication du MRC.
La loi nulle part ne parle du ministre des Sports. Ça, c'est une question civile. On a eu à faire des meetings au même endroit, sans problème.
Ils sont en train de violer non seulement la loi du Cameroun, ils violent aussi les traités et conventions ratifiés par le Cameroun.
Malgré l'interdiction du meeting, des centaines de militants du MRC ont convergé vers les alentours du stade. Selon Olivier Bibounissak, porte-parole de Maurice Kamto, 33 militants du MRC ont été interpellés, 30 libérés samedi dans la nuit et 3 font l'objet d'une garde à vue. Les déboires du MRC avec les autorités ont commencé vendredi. Une délégation de militants venus de Yaoundé a été bloquée à une trentaine de kilomètres de Bolova dans la région du Sud.
Le meeting du MRC programmé dans la région du Sud à Ebolova le 1er novembre n'a pas eu lieu.
Sam Severin Ango, journaliste et militant du MRC, faisait partie de cette délégation.
Il nous a été servi une décision d'interdiction de ce meeting-là au motif que le RDPC, le parti au pouvoir, avait également programmé un même type d'opération au même lieu et à la même heure. Le parti au pouvoir a peur de voir l'invasion de l'opposition dans la région du Sud présentée comme le bastion réservé du RDPC.
Mercredi, Maurice Kamto a confirmé la tenue des meetings de remerciement aux militants de son parti sur l'ensemble du territoire national pour le soutien qu'ils lui ont apporté pendant les 8 mois de détention. Mais le prochain meeting du JAR prévu à Douala n'a pas reçu l'autorisation pour des raisons de calendrier administratif. Selon le sous-préfet de Douala 5e, le parti dénonce un acharnement. Sostène Médard-Lipot, secrétaire national à la communication du MRC.
Le sous-préfet dans ce pays est prêt à aller voir le ministre des Sports pour lui dire jamais n'autoriser que sur une place à Yaoundé ou ailleurs qu'il n'y ait un meeting du MRC. Et c'est ce qu'ils font. Mais eux, ils vont faire leur meeting du RDPC le 6 novembre.
Roland Thierry Endom, analyste politique, affirme qu'au contraire, le MRC a des stratégies dangereuses.
Je voudrais quand même questionner cette stratégie permanente à n'aller que vers de l'affrontement contre les autorités et les fonctionnaires du commandement territorial. Je pourrais également questionner la stratégie politique globale de ce parti politique qui apparaît comme un parti politique dépassé sur le plan stratégique.
Le gouvernement n'a pas réagi sur les accusations de violence et d'arrestation arbitraire des militants du MRC de ce week-end. Yaoundé, Emmanuel Jelmoutap, VOA Afrique.
Au Tchad, le nombre de sièges de députés à la future Assemblée nationale divise les acteurs politiques. Le Conseil des ministres de la semaine dernière fixe le nombre de sièges à 161 députés à partir de la 4e législature. Les membres de l'opposition au sein du CNDP, le cadre national de dialogue politique, rejettent ce jugement jugé non consensuel. André Komadjengar, correspondant de VOA, fait le point depuis Djamena.
réduire le nombre de députés à l'Assemblée nationale et des unités administratives jugées budgétivores. C'est l'une des résolutions du Forum national de 2018. Tenant compte du nouveau découpage administratif envisagé, une sous-commission a été mise sur pied par le CNDP qui examine le projet de la loi organique. Mais avant la fin de ses travaux, la semaine dernière, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le projet de loi sur la composition de l'Assemblée nationale.
Après un long débat autour de la question, le Conseil a fixé le nombre de sièges à 161, dont 5 sièges réservé aux nomades.
Oumar Yahya Hissène, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Dans un document conjoint, la composante opposition du CNDP dit ne pas se reconnaître dans la réduction du nombre des sièges de la future législature à 161 députés. Dr Nasra Dimasingar, secrétaire national du Parti Nouveau Jour, est l'un des signataires du dit document.
Le nombre des provinces qui devait être réduit à 17 a été maintenu à 23. Le nombre des départements qui était de 71 est passé du simple au double. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on maintienne le nombre de sièges que le forum avait fixé. Si le chef de l'État a trouvé bon d'attribuer une partie de son pouvoir au cadre national de dialogue politique, qu'il s'en tienne à ça. Mais fixer un nombre et l'attribuer au CNDP, quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Le politologue Dr Evariste Ngarlem-Tolle estime que l'opposition savait d'avance qu'elle allait être roulée dans la farine.
Cette opposition qui est entrée au CNDP pour prendre la relève savait d'avance à quelle sauce elle allait être mangée. Et ceci n'est que le début du commencement. Toujours est-il qu'on est dans une logique de débat et de combat politique. Et en ce moment, le processus est en train d'avancer avec une épine au pied.
Pour la présidente du parti Rassemblement pour le Progrès et la Justice sociale, Bourkou-Louise Ngara-Doumbri, membre de la majorité présidentielle, la question de la parité ne peut pas être oubliée dans ces débats.
Les anciens députés sont à 188. Mais aujourd'hui, on dit que les députés seront à 161. Mais sur quelle base? Il faut que je comprenne que je suis de la majorité. Pourquoi on a fait ça? Qu'on donne la possibilité à tout le monde de participer, y compris les femmes. Le code précise même que s'il y a deux sièges, il faudrait la candidature d'une femme et d'un homme.
L'opposition exige que cette question soit débattue d'urgence à la plénière du CNDP pour tenir compte des territoires vastes mais peu peuplés, mais aussi ceux qui ont une forte densité humaine pour préserver la cohésion nationale. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
La semaine de la jeune fille s'est tenue du 29 au 31 octobre à Lomé, au Togo. Le thème central était une éducation de qualité pour des jeunes filles épanouies. Pendant 3 jours, environ 200 collégiens et lycéens ont appris l'importance d'une bonne éducation dans la vie de chaque fille. Au programme, art oratoire et déclamation de poèmes, mais aussi des causeries-débats sur les stéréotypes et l'égalité des sexes. Reportage à Lomé de notre correspondante Kaïl Osson.
Briser le silence autour de la discrimination et du harcèlement en milieu scolaire, c'est ce à quoi les participants à la semaine de la jeune fille ont été conviés. Ont participé à cette édition des filles comme des garçons. L'occasion a été saisie pour sensibiliser ces jeunes élèves à prendre conscience de leur potentialité et à s'engager dans la défense des droits des femmes. Elsa Bakolé, activiste sur les questions d'équité genre.
Si nous ne faisons que travailler sur les filles, nous ne faisons rien. Nous travaillons avec les filles et les garçons pour leur faire comprendre un certain nombre de choses, là où l'autonomie peut les amener, là où les conséquences de leurs actes peuvent les amener. L'éducation, c'est la base, c'est ce qui va les rendre autonomes, c'est pour le moment la solution principale même que nous avons.
Pour aller vers un monde plus égalitaire, il faut une implication ardue des hommes. Confiant cette affirmation, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a développé le concept de masculinité positive. Cette approche a été présentée lors de la semaine de la jeune fille par Dr Kokou Amegantchevi. Il est l'assistant du Dr Denis Mukwege.
La masculinité positive, c'est un concept qui permet à l'homme de prendre la relève du combat. Parce que depuis longtemps, la femme a été au front de la lutte. L'homme doit comprendre que la femme n'est pas créée pour lui comme une proie. Donc, il pourra se servir comme il croit. Donc, il doit considérer au contraire que la femme est un être humain égal à lui et que la femme est son vis-à-vis, son partenaire, fait partie de sa commune humanité.
Faire dos aux stéréotypes, mettre fin aux grossesses précoces, éradiquer les discriminations, promouvoir l'égalité des chances ont été entre autres thématiques abordées. Voici ce que ces garçons ont pu retenir de leur participation.
J'étais en classe de première C4. On nous a parlé de l'émancipation de la jeune fille, comment éviter les grossesses précoces pour les jeunes filles et pour nous les garçons, comment éviter de discriminer les jeunes filles.
Philippe, j'ai 16 ans. Je suis élève en classe de première D. Selon moi, la discrimination envers les filles, c'est qu'on donne certains travaux aux hommes, mais on refuse de les donner aux femmes parce qu'on se dit qu'elles sont inférieures, qu'elles ne peuvent pas effectuer ces genres de travaux. Donc, selon moi, l'égalité de chance dans tous les domaines serait mieux.
J'ai 18 ans. Élève en classe de terminale D. Lorsqu'on parle de l'égalité des sexes, il va falloir que les hommes, tout comme les femmes, fassent le même travail à la maison. Étant donné que nous désirons que les femmes puissent aller à l'école, ils doivent pouvoir avoir un temps pour apprendre.
Ce que les garçons ont retenu semble être un peu différent de celui des filles.
Je suis en classe de 3e. La chose la plus importante que j'ai retenue, c'est que je dois être leader. Premièrement, leader dans mon milieu, dans ma famille, dans mon école. Et quand je suis leader dans ce domaine, je pourrais être leader partout où je veux.
Armelle, j'ai 18 ans, je suis en terminale A. Moi, ce qui m'a énormément touchée, je promets de mettre ça en pratique, c'est l'abstinence. Si nous nous abstenons, je ne vois pas le problème. On n'aura pas des grossesses précoces ni des maladies.
Je viens du lycée de Dalie. J'ai retenu qu'en tant que fille, nous devons nous battre, travailler dur pour atteindre nos objectifs et aussi développer notre confiance en soi.
La semaine de la jeune fille est une initiative du groupe de réflexion et d'action Femmes, démocratie et développement, GF2D. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée de la jeune fille, célébrée le 11 octobre dernier. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le FITMO, le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, a célébré ses 30 ans cette semaine. À l'occasion, près d'une dizaine de disciplines artistiques ont été célébrées. La thématique principale, l'art au service de la cohésion et de l'intégration des peuples. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Pratiquement l'une des dernières prestations de cette 17e édition du FITMO, le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, coïncidant avec les 30 ans de la manifestation. 8 disciplines artistiques étaient représentées allant des arts du spectacle vivant aux arts plastiques en passant par le cinéma.
On a eu de bons spectacles, une très bonne programmation.
Inès Félico, festivalière venue du Bénin.
À travers l'art, tous, on était unis. Il n'y avait pas de diverses nationalités. On n'en comptait même pas. On était tous unis autour de la même chose, de la célébration des 30 ans du FITMO. Et c'était génial.
Ah, cohésion sociale et intégration des peuples. Les autorités burkinabènes pensent que c'est une très belle thématique, surtout dans le contexte actuel. Rasmane Kambani, représentant du ministre de la Culture.
Notre cohésion sociale a été quelque peu touchée par ces différentes attaques-là. Dans certaines localités, les communautés ont dû s'affronter. Lorsqu'on vient évoquer un thème comme celui-là, ça nous permet de recadrer les choses.
Créé en 1989, les activités du FITMO sont orientées sur 3 axes. Les spectacles, les formations et les rencontres professionnelles. Depuis 2007, le FITMO est devenu un festival des arts. Il fallait créer le festival.
C'est quand même rare en Afrique de voir un festival de ce niveau-là.
Docteur Amadou Mandé, président et directeur artistique du FITMO.
Un festival indépendant, donc qui n'a pas de subvention étatique régulière. Pouvoir perdurer comme ça et surtout arriver à tenir toutes ces éditions. Parce que le FITMO a été lancé en 1989 et en 2019, nous fêtons le 30e anniversaire. La création du festival est née d'une volonté de permettre aux artistes d'Afrique de se rencontrer sur le continent africain et de pouvoir partager leur art, de pouvoir travailler ensemble, mais surtout de pouvoir proposer leur production au public africain. Parce qu'avant cela, ce n'est qu'en Europe où les Africains avaient la possibilité de se rencontrer à des festivals, mais adressés à des publics autres que le public africain.
Le FITMO est organisé par 6 pays, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Niger. Pour l'édition de 2021, le Ghana rejoindra ces pays, selon les organisateurs. Le FITMO se positionne comme le festival de l'intégration africaine. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est la la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Anne Alberson était à la réalisation. Darrell Smith était à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg et Anne Alberson. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voafrique.com et grâce à notre page Facebook. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.